Et nous retrouvons tout de suite Huguette Nadal pour la chronique généalogie. Bonjour Huguette.
Bonjour tout le monde.
Alors ces dernières chroniques, nous sommes intéressés à des communautés particulières. Nous avons vu le cas des protestants, des juifs et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ceux qui ont migré dans les pays d'Afrique du Nord.
Oui, les dates sont 1830-1962.
Bien Très sûr. Bien.
C'est la naissance d'une population et une construction des identités à contexte colonial, on va dire. C'est à partir de 19 septembre 1848 que l'Algérie voit arriver un nombre de colons français attirés par la promesse d'une vie meilleure, où l'État leur garantit une maison, des instruments, du bétail, la protection de l'armée pendant 3 ans.
Oui.
Sur une terre encore largement marquée par les affrontements armés avec les indigènes. Et dans un deuxième temps, l'État ouvre la colonisation aux Européens non français dans des villages ou des centres de colonisation. Donc il n'y a pas eu que des Français qui ont été amenés là-bas.
Très bien.
Les colons européens, ils s'y ajoutent du personnel français de l'encadrement, de la colonie, militaire, médecin, administratif. Les archives concernant ce personnel devront permettre de renseigner les trajectoires et les modalités de construction d'une élite coloniale.
Bien sûr.
De la même façon, l'étude des concessions permet de distinguer ces gros colons parmi lesquels en 1957, Germaine Tillon estimait à 300 familles de très riches et une dizaine d'excessivement riches.
Ah.
C'est par exemple le cas de B. Dangomer qui arrivait de l'Ariège. Il est arrivé en Algérie en 1872 avec 1000 francs à l'époque. Il obtint à Tizi Ouzou une concession de 21 hectares. Et lors de l'enquête en 1907, il possède cette fois 150 hectares et une fortune estimée à 150 000 francs.
Ah oui,
voilà.
Ça avait prospéré.
Ouais. Si la majorité des migrants en Algérie sont masculins, en particulier au XIXe siècle, la migration féminine doit être interrogée de la même manière que les femmes vivent en famille ou qu'elles soient seules. La liste des concessions octroyées indique le nombre de veuves et quelques femmes célibataires.
Ah oui.
Et par exemple, Marie Zenataxi Stéphanopoli, qui obtient un lot de colonisation en 1906 dans le département de Constantine. Elle fait une demande en même temps que François, pareil, c'est son frère. L'état civil nous apprend aussi que François est né à Gargèse, c'est-à-dire dans le Corse du Sud, où sont présentes de nombreuses familles originaires de Grèce. Et il se marie avec Marie-Apolline, qui, elle, est née en Algérie, de parents français, la première génération des Français et des colons nés en arrivant. Alors, cette généalogie, pour la retrouver, il existe un site qui s'appelle le site Anom. Alors, j'appelle, c'est A-N-O-M. Anom. Et sur ce site, vous allez retrouver tout ce que vous voulez savoir. Et ça concerne aussi l'outre-mer, ce site.
Ah oui.
Anom. Vous avez aussi tous les enregistrements des pays d'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, tout ça. Donc, c'est un site très important qui se situe à Nantes. Donc, vous écrivez et puis ils vous répondent.
Voilà, d'accord.
C'est ça. Par contre, la population européenne d'Algérie est perçue comme unifiée. Ils forment vraiment un bloc par rapport à la communauté algérienne.
Locale,
locale,
indigène.
Voilà, voilà. Et beaucoup de gens qui étaient domestiques ou qui vivaient au contact des Français sont revenus en France avec eux.
Ah oui.
Et c'est là qu'on a eu beaucoup de problèmes de les intégrer dans notre population à nous, en France et tout ça. Bon, alors après, bien sûr, ils se sont dissous, on va dire, plus ou moins au fil des années. Mais leur intégration n'a pas été évidente.
D'accord.
Et surtout, ils ont participé aussi aux guerres. Chez nous, puisqu'ils ont été d'office amenés. On est allé chercher des soldats dans toutes les colonies.
Oui, bien sûr.
Voilà. Alors sur Philae, qui est un site que j'avais cité tout à fait au début, on peut retrouver l'état civil européen d'Algérie de 1830 à 1904.
Très bien.
Déjà, ça peut... Voilà.
Oui.
Pour la Tunisie, par exemple, il faut contacter le ministère des Affaires étrangères. Qui est à Paris, sur le Quai d'Orsay, sur Paris. Alors après, pour le Maroc, il n'existe pas d'état civil au sens moderne du terme. Mmh. Donc ce sont plutôt des représentants consulaires qui sont dessus.
Ah oui.
Vous les trouvez, ces actes, par exemple, au ministère aussi des Affaires étrangères, à Paris aussi.
Ok.
Par contre, ce que vous ne trouverez pas aux archives nationales d'outre-mer, c'est le Tonkin, par exemple.
Ok, oui.
La Cochinchine, l'Indochine, tout ça. Mm-hmm. Vous le trouverez au centre diplomatique du ministère des Affaires étrangères, qui est un site sur Nantes.
Ah,
voilà.
Oui. Mm-hmm. Okay.
Et ça, vous ne le trouverez pas dans le site Anon.
Mm-hmm.
Voilà. Donc là, vous envoyez un courrier et eux, ils cherchent et ils vous répondent. Mmh. Voilà.
Parfait.
Ce qu'on peut savoir sur les archives nationales d'outre-mer.
Parfait. Merci beaucoup, Huguette.
De rien.
Et à très bientôt.
À bientôt.
On se retrouve tous sur Liberté FM.